rappeler que lorsque j'ai donné le cours sur le parler en langue à l'Institut biblique, il était absent.
C'est pour ça que je ne sais rien.
C'est à cause de son absence que j'ai pris le relais. Alors, profitons de ce qu'il est aujourd'hui parmi nous. De toute façon, il ne s'agit pas seulement pour vous de poser des questions, mais aussi de faire vos contributions. Je crois que nous sommes dans un moment de mise en commun fraternelle. Ce moment est d'autant plus nécessaire que le temps a manqué, non seulement pour qu'il y ait entretien après l'heure d'Institut biblique en octobre, mais même pour que j'explique avec, je pense, les nuances et les raisons qui auraient éclairé mon propos, les choses que j'ai dites à la fin. À la fin, j'ai dû comprimer. Hein. Donc, je pense que notre moment ensemble peut permettre des éclaircissements. Alors, à vous maintenant de tirer les premiers. Oui, monsieur Louis-Georges.
Alors, ma question de. C'est du pas beaucoup de texte. Je sais que c'était assez clair. Ça. Mais c'est au niveau de la conclusion qui m'a semblé pas contradictoire, mais intelligible. J'ai senti que la fois, le sujet même est totalement intelligible. Mais dans la conclusion, dans les sens, ils disent, n'acceptera pas qu'un tel texte soit un. Pourquoi la foi et cette fermeture également, est-ce que c'est dans quel ordre qui est situé à ce niveau-là, est-ce que c'est là aussi cette démarche est une démarche de violence, ou bien c'est pas aussi une façon de dire que nous ne sommes pas d'accord avec le Parlement, cela nous permet d'expliquer et d'éclairer plus en plus certains pour la foi.
Merci beaucoup. Oui, je crois que vous touchez d'emblée le point qui est sans doute le point névralgique. C'est à son propos que j'ai dit tout à l'heure que je n'ai pas eu le temps ni d'apporter les nuances, ni de dire pourquoi j'aboutissais aux conclusions que je résumais tout à la fin de l'heure. Alors, vous me tendez la perche immédiatement, je la saisis. Je vais essayer de dire maintenant, profitant de ce que j'ai quelques minutes, ce que j'ai essayé de dire, et je vais en même temps, je pense, ajouter quelques raisons. Il y a deux écueils qui me semblent des écueils dangereux, des récifs contre lesquels le navire de notre Église risquerait de se briser. Deux écueils qu'on peut dénoncer assez facilement, à droite et à gauche. Ce sont l'écueil du refus brutal, bloqué, crispé, craintif, d'une part, assaisonné de raisons plus ou moins bibliques peut-être, mais qui ne me paraissent pas finalement de bonnes raisons, et d'autre part, l'écueil d'une sorte de complexe d'infériorité à l'égard de communautés dans lesquelles le parler en langue se pratique de manière fréquente, tout à fait ordinaire, et en particulier dans les réunions, complexe d'infériorité associé à l'idée qu'il faudrait que nous ayons nous aussi des phénomènes de même genre dans nos cultes. Il me semble qu'il s'agit là des deux écueils à éviter. Alors, je développe. Après avoir dit ces choses, refus bloqué. Certains considèrent que le parler en langue est un don qui ne pouvait avoir cours qu'au premier siècle, qu'au temps des apôtres, et qu'après le temps des apôtres, il n'y a plus eu que des contrefaçons, et il ne peut plus y avoir que des contrefaçons. Dès qu'il rencontre quelqu'un, un chrétien qui dit avoir ce don de parler en langue et qu'il exerce, il pense que c'est purement psychique, purement produit par des mécanismes charnels ou même démoniaques. Et il existe des chrétiens évangéliques, je crois que nous devons le savoir, qui estiment l'ensemble du mouvement pentecôtiste, néo-pentecôtiste, d'inspiration démoniaque à cause de la part que le parler en langue y tient. Le raisonnement est très simple. D'après l'Écriture, le parler en langue doit cesser après le temps des apôtres. Donc tout ce qu'on appelle parler en langue après cela n'est pas authentique. Comme c'est un phénomène quand même assez extraordinaire, il faut que cela vienne du diable ou des démons. Voilà ce que certains chrétiens mettent en avant. Je ne pense pas que leur raison soit saine. Je ne crois pas qu'on puisse tirer du Nouveau Testament cette thèse qu'ils embrassent, selon laquelle le parler en langue aurait été réservé au temps des apôtres. En général, ils tirent cela d'un Corinthiens 13, quand il est dit que les langues cesseront, et ils imaginent que cela veut dire les langues cesseront après le temps des apôtres. Quand ce qui est parfait, pour eux ce qui est parfait, c'est le Nouveau Testament dans son entier, sera venu. Je crois qu'il est très arbitraire de comprendre ce qui est parfait comme le Nouveau Testament. Dans le contexte, ce n'est pas ça du tout. C'est quand nous verrons face à face, quand nous connaîtrons comme nous avons été connus. Alors je ne peux pas recevoir cette raison. Il y a des complications, des détails. Dans mon cours sur le péché et la rédemption, j'ai des pages assez détaillées sur ce point. Alors j'y renvoie ceux qui veulent plus de détails. C'est dans le deuxième fascicule, le deuxième des trois, de ce cours que je donne à la faculté de Beau-sur-Seine et qui a été publié. Il me semble, contrairement à ce que croient ceux qui s'installent sur cet écueil de gauche, il me semble que le don du parler en langue est un don que le Saint-Esprit peut authentiquement produire et accorder aujourd'hui dans l'Église de notre temps. L'écueil de droite me semble aussi un écueil à éviter. C'est l'écueil de ceux qui estiment qu'il n'y a pas d'Église saine et en pleine vitalité qui marche dans la plénitude de la bénédiction du Seigneur si le parler en langue ne se manifeste pas dans son sein. Je crois que cela aussi est une conclusion qui n'est pas justifiée par l'Écriture. Je pense que j'aurai deux raisons principales à mettre en avant pour la conclusion à laquelle j'arrive. La première raison, c'est la raison biblique. La raison biblique, c'est que nulle part il ne nous est dit d'aspirer au don de parler en langue. Nulle part il ne nous est recommandé de chercher ce don-là. Au contraire, dans les chapitres que nous avons étudiés lors de cette séance d'octobre, on remarque que l'apôtre Paul tente de rediriger l'aspiration des Corinthiens, qui eux semblent avoir été passablement attirés par le don de parler en langue, de le rediriger vers les autres dons, en particulier vers le don de prophétie, mais de manière plus générale vers ce qu'il appelle les dons les meilleurs. Son précepte, à la fin d'un Corinthiens 12, est extrêmement clair, aspirer aux dons les meilleurs. Et puis ensuite, après l'intermède du chapitre 13, qui nous montre dans quelle optique tous les dons doivent être recherchés et pratiqués, à savoir l'optique de l'amour, de l'édification les uns des autres. Dans le chapitre 14, l'apôtre déroule toute une série d'arguments pour montrer que le parler en langue n'est pas le don le meilleur, qu'il est sur certains points, tout en étant un don de Dieu, tout en étant une bonne chose en soi, inférieur en particulier au don de prophétie. Et il conclut toute l'affaire à la fin du chapitre 14 en disant « N'empêchez pas de parler en langue, mais aspirez au don de prophétie ». Ça me semble être la conclusion qui résume tout ce qu'il veut communiquer à ce moment-là aux chrétiens de Corinthe. Il ne s'agit pas d'interdire le parler en langue, cela on ne peut pas. Il ne s'agit pas de faire donc comme les chrétiens sur l'écueil de gauche, dont j'ai parlé. Mais il ne dit nulle part, en tout cas, qu'il faille le rechercher. Ça, c'est la première grande raison qui me fait dire il y a un écueil à droite duquel nous devons aussi nous garder. La deuxième raison est une raison qui considère l'histoire de l'Église. Ceux qui suggèrent que l'Église ne peut pas avoir la plénitude de la bénédiction sans le parler en langue, me semble ignorer le témoignage de l'histoire, qui nous montre sur des siècles et des siècles, des hommes de Dieu éminents entre tous, que Dieu a abondamment bénis, par lesquels des milliers sont venus à la foi, des églises dans le réveil, qui n'ont pas connu du tout les phénomènes de parler en langue. Alors, considérer que la présence du parler en langue est nécessaire pour une église en pleine vitalité, ça me semble être quand même une façon de mépriser les leçons de l'histoire de l'Église. Et j'ajouterais qu'assez souvent, je ne dis pas que ce soit toujours le cas, mais assez souvent, ceux qui mettent l'accent sur le don de parler en langue suggèrent que c'était, disons, par manque de foi, par manque d'ouverture à l'Esprit de Dieu, que les autres générations ne l'ont pas eu, ce don. Il y a quand même très souvent un petit jugement spirituel qui est porté sur les générations de chrétiens qui sont venus avant nous. On suggère qu'ils ont manqué, par leur faute, de quelque chose. Or, je remarque que nulle part dans le Nouveau Testament, il n'est suggéré à propos de ce don ou à propos des autres dons, que ce soit par la faute des chrétiens s'ils ne les ont pas, ou s'ils n'en ont pas beaucoup. Il n'est jamais reproché, il est reproché bien des choses aux chrétiens du Nouveau Testament, mais il leur est jamais reproché de n'avoir pas tel ou tel don. C'est quand même quelque chose d'assez frappant. Tout l'accent tombe sur la liberté du Seigneur qui distribue comme il veut. Alors, ayant donc cette pensée, que je crois appuyée sur l'Écriture, qu'il y a deux écueils pour nous à éviter, qu'est-ce que j'ai voulu dire pour nous, très pratiquement, dans notre situation d'Église? J'ai voulu dire d'abord que nous n'avons pas à interdire le don du parler en langue. Que si un don se manifestait lors d'une de nos assemblées, s'il était associé à l'interprétation, comme Paul l'exige pour les réunions d'assemblée, nous n'aurions pas à l'interdire. Voilà. Cela, j'ai voulu le dire, j'espère que ça a pu être perçu, mais je le maintiens. Hein. Deuxièmement, j'ai suggéré que, à titre individuel, il n'y avait pas au moins d'indication générale qui nous pousse tous à le rechercher. Le don de parler en langue, je crois qu'il joue pour l'édification de celui qui l'a reçu, mais il me semble qu'il n'y a pas d'indication générale au moins qui nous pousserait tous à le chercher. Il se peut, je ne l'exclus pas cela, je ne pense pas que j'ai eu le temps de le dire en octobre, il se peut que quelqu'un soit poussé par le Seigneur à titre individuel à le rechercher, à le demander. Cela, je ne l'exclus pas non plus. Je sais que le Seigneur agit dans la vie des uns et des autres avec beaucoup de souplesse, avec beaucoup de diversité, et je ne veux pas exclure que le Seigneur puisse dire, comme il nous dit, par une sorte d'impulsion, nous pouvons nous tromper, mais enfin souvent c'est quand même bien le Seigneur, de prier pour telle personne, prier pour ceci, prier pour cela. Il nous met à cœur quelque chose plus spécialement, il peut le faire aussi à propos de ce don du parler en langue, nous dire, demande-le, je te le donnerai, c'est mon intention, c'est possible. Mais je ne pense pas qu'il y ait dans le Nouveau Testament d'encouragement à une sorte de mot d'ordre général, que tous nous cherchions à obtenir ce don, ça me semble aller plutôt contre la direction du chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens. Puis alors, considérant l'état de notre Église et la situation historique en laquelle nous sommes en tant qu'Église par rapport à d'autres Églises, j'ai finalement dit qu'il me semblerait, sans vouloir du tout limiter la liberté de Dieu, que la manifestation d'un parler en langue au milieu de nous créerait plus de problèmes qu'elle n'édifierait, qu'elle n'aurait d'effet constructif pour la vie de notre communauté. Que ça risquerait de susciter des remous, certains ne comprendraient pas, étant donné l'existence de doctrines pentecôtistes auxquelles nous ne pouvons pas souscrire, associées à l'existence de ce phénomène dans d'autres églises, j'ai dit mon sentiment que dans l'état présent de notre église, ce ne serait probablement pas un bienfait si cela se manifestait. Mais je ne peux pas pour autant limiter la liberté de Dieu. Je ne pense pas qu'on pourrait faire une loi interdisant la manifestation d'un don de parler en langue. Mais c'est mon sentiment, ce qui veut dire que cela ne me pousse pas à le rechercher pour le bien de cette Église. Et en plus de ça, j'ajoute une considération toute pratique, mais je crois que la Bible aussi reste très pratique, n'est-ce pas ? Nos cultes sont des cultes qui dépassent légèrement l'heure et demie. Nous avons du mal à y loger tout ce que nous devons y loger. Je crois qu'il serait difficile pour nous de faire tenir dans notre culte, sans éliminer les éléments tout à fait essentiels qui s'y trouvent déjà, d'y faire tenir encore d'autres choses, comme par exemple des manifestations de parler en langue, s'il devait y en avoir. Les réunions de l'église de Corinthe se déroulaient sans doute sur des heures et des heures, bien davantage. Et ça aussi, c'est un point que l'on peut considérer. Je pense que si jamais il devait y avoir une manifestation de parler en langue dans une réunion d'église du tabernacle, ce ne serait pas tant au culte, avec les problèmes d'horaire que nous avons, et nous ne pouvons pas les éviter. Nous sommes en 1986, et pas 086, nous sommes en 86, et c'est comme ça que nous devons tenir compte des réalités. Ce serait plutôt alors dans d'autres réunions que pourrait éventuellement se manifester un don de parler en langue suivi d'interprétation. Voilà, j'espère que j'ai pu clarifier la pensée que j'avais émise en conclusion. Je demande peut-être d'abord à M. André-Georges si ça lui semble maintenant plus clair et moins contradictoire.
Au niveau de tout l'enseignement, ça partage ma bonne point de vue. C'est justement à cause de ce que vous avez tout à l'heure éclairé. Il m'a semblé un peu. C'est vrai qu'il n'est pas bien compris. C'est ça que je voulais poser cette question-là.
Oui, oui.
Voilà, nous sommes d'accord avec l'enseignement général, mais dans notre cas actuel, si quelqu'un a ce don, on ne le souhaite pas qu'il le fasse. Alors moi, je me suis demandé, est-ce que nous avons la capacité ou bien le discernement nécessaire pour savoir est-ce que c'est en ce moment la dette où nous avons ce don, pour lequel moi j'ai rien à dire. Est-ce que nous avons toute la capacité nécessaire pour discerner est-ce que cela vient de Dieu ou pas ?
Monsieur Morel.
Ça va être un peu. Pardonnez-moi. Moi, ce qui me gêne beaucoup dans les débats, c'est une précision de vocabulaire. C'est l'impression que j'ai que tout le monde ne parle pas de la même chose quand on parle de parler en langue. Si on considère les actes des apôtres, c'est la première manifestation de ce don du Saint-Esprit. Qui parlait des langues d'hommes, qui parlait du chinois, du japonais ou du sénégalais, et qui était donc compris par les gens qui étaient là. Dans le texte des Actes ou de l'Épître aux Corinthiens, ne donne pas exactement cette précision, en tout cas reste dans l'ombre, et certains frères ont cru faire rentrer là-dedans des langues inintelligibles. Qui ne sont pas du chinois, du japonais ou du sénégalais, mais qui sont du gliglou-glou et du gliglagla. Pardonnez-moi, non, je ne veux pas vous faire rire, mais c'est ça, en fait. Et la première question qui me vient à l'esprit, quand nous parlons, nous ici, en tant qu'église, du parler en langue, parce que dans certaines églises, ce qu'ils appellent parler en langue, c'est du gliglou-glou.
Deuxième question, là, ou le deuxième élément qui a été touché par M. Morel, cela, j'avais essayé de le traiter en détail avec, je pense, les preuves bibliques voulues en octobre. Je suis très fermement persuadé que le don du Saint-Esprit dont nous parle le Nouveau Testament n'est pas le gligligluglou. Employons cette expression qui est très commode. Nous nous comprendrons aisément entre nous. Je crois pouvoir le démontrer de façon exégétique. Je ne vais pas reprendre maintenant la démonstration. Je signale qu'il y a d'autres étudiants du Nouveau Testament qui viennent à la conclusion semblable. Par exemple, John Stott a des positions qui sont tout à fait identiques à celles auxquelles j'arrive sur ce point. C'est à propos du don du Nouveau Testament, c'est-à-dire chinois, russe, sénégalais, etc., j'ai fait tous les commentaires que j'ai faits. C'est en supposant l'authenticité du don selon le Nouveau Testament. un miracle en fou, par lequel quelqu'un qui n'a jamais appris le chinois ou le sénégalais s'exprime, sans le savoir lui-même, en chinois ou en sénégalais pour exprimer les louanges de Dieu. C'est ça le don, d'après le Nouveau Testament. Même ce don-là, Paul ne dit pas de le rechercher. Paul dit que c'est un don qui édifie celui qui le reçoit, mais il ne dit même pas de le rechercher. Il dit simplement, n'empêchez pas de. Oui. Mais à propos de ce don-là, quant au Gliglou, je ne pense pas que ce soit le don dont le Nouveau Testament nous parle. Alors, est-ce nécessairement un don satanique? Je ne le pense pas non plus. Je crois que dans certains cas, les forces occultes peuvent en profiter, mais que dans la très grande majorité des cas, c'est simplement un phénomène psychique dont on a bien réussi à démonter d'ailleurs les mécanismes. C'est finalement assez simple pour des spécialistes.
Et assez répandu en dehors de l'Église, hein, dans toutes sortes de religions et de lieux.
Alors évidemment, on en trouve pas mal dans le spiritisme chez des mormons, et là on pourrait dire des forces occultes doivent y avoir une part assez considérable. Mais disons qu'on peut aussi, à coup sûr, y voir un phénomène de type purement psychique.
Et Bertrand Ribaud.
Oui, j'avais une question à deux volets. Est-ce qu'il existe un don d'interprétation, de même qu'il existe un don de parler en langue?
Oui.
C'est-à-dire, est-ce que les interprètes peuvent interpréter des langues qu'ils n'ont jamais eux-mêmes apprises?
Oui, oui. J'y viendrai si vous voulez tout de suite après avoir donc pris le deuxième aspect de la question de M. Morel, mais je pense que c'est très, très important ce que vous soulevez aussi. Donc, en ce qui concerne le point qu'il avait soulevé, que M. Morel avait soulevé, de la nature du don dont nous parlons, c'est la capacité miraculeuse de s'exprimer dans des langues authentiques, ce n'est pas la faculté d'émettre des séries de sons qui n'ont pas véritable nature linguistique, qui peuvent en avoir l'allure extérieure, mais qui ne sont pas authentiquement des langues, à qui il manquerait totalement un lexique, un vocabulaire, donc, ou une syntaxe, etc. Qu'en est-il du parler en langue, comme on le dit, entre guillemets, donc, dans pas mal d'églises, de cercles, en particulier pentecôtistes ou néo-pentecôtistes, charismatiques, de notre temps? Je n'ai pas fait d'enquête sérieuse, systématique, scientifique sur le sujet. Alors, je n'ai pas voulu donc me prononcer sur ce point dans l'espèce de leçon que j'ai essayé de donner en octobre. Mais je vais quand même vous dire maintenant mon sentiment qui est sujet à révision, hein, parce que justement, ce n'est pas moi qui ai pu faire une enquête systématique. Mon sentiment, c'est qu'il y a une très large proportion, quantitativement, une énorme part de gligligloublou, c'est-à-dire de phénomènes qui ont une origine essentiellement psychique, qui viennent de l'homme et seulement de l'homme. Je crois que c'est une conclusion assez sage. Je l'appuie essentiellement sur deux fondements. Des études qui ont été faites, alors pas par moi, hein, je ne peux pas m'emporter garant, mais qui me semblent avoir été très très sérieuses, en particulier une étude d'un linguiste et ethnologue qui s'appelle Samarin, professeur dans une université canadienne, qui a étudié, qui a mis de côté, je crois, plusieurs années pour faire une étude systématique avec la collaboration de pentecôtistes ou de charismatiques parlant en langue, étudiant ce qu'ils avaient émis après l'avoir enregistré au magnétophone, décortiquant, lui comme linguiste, pour voir si c'était des langues, si ça pouvait être des langues, et voyant, mais alors pour lui, dans tous les cas, hein, lui il dit dans tous les cas que ce n'était pas de véritables langues, et montrant qu'on pouvait très bien retrouver les mécanismes inconscients de construction des pseudo-mots, de ces séries de sons qui en fait ne peuvent pas être des mots, parce que ce n'est pas une véritable structure linguistique. Il en a fait l'étude, ce livre de Samarin, je le trouve très impressionnant, surtout qu'il a eu la collaboration de représentants de pasteurs pentecôtistes, par exemple, etc. Il dit, toutes les fois où on m'a dit, quelqu'un a parlé chinois, etc., j'ai essayé d'aller voir, j'ai fait une enquête, et finalement, j'ai toujours trouvé que c'était pas du chinois. Que les gens avaient cru que c'était du chinois, mais justement, c'était pas un chinois qui avait entendu ça, ils y croyaient, avaient cru, etc. Et finalement, jamais il n'a, lui, dit n'avoir trouvé un véritable miracle de parler dans une langue étrangère. C'est la première chose qui me fait dire, il doit y avoir une très grande proportion de gligligouglou autour de nous. La deuxième fondement, il est lui alors un tout petit fondement, c'est la seule expérience que j'ai pu avoir. Je me suis trouvé dans quelques assemblées pentecôtistes. Je vous assure que vraiment, j'ai pas eu l'impression que ce soit un miracle de parler dans des langues étrangères, mais c'était des séries de syllabes. J'entendais des prières qui commençaient en français, et qui étaient très très répétitives et très très pauvres de sens en français. Et à la file de ces prières, ça devenait des suites de syllabes. Franchement, il me semblerait surprenant que le Saint-Esprit ait créé un miracle tout à coup au sein de cette émission qui était d'un seul jet, où le début était en français, pour très répétitif, quelques des mots répétés sans et porteurs de peu de sens, et puis qu'ensuite c'était un miracle de parler en assyrien ou en sanskrit ou je ne sais. Mais là encore, je ne peux pas prouver. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je crois cependant qu'il y a dans les églises pentecôtistes charismatiques aujourd'hui au moins quelques cas d'authentiques parlés en langue biblique. Samarine dit qu'il a fait des enquêtes, qu'il n'a jamais réussi à trouver des témoignages fiables. Bon, moi j'estime avoir quand même des témoignages fiables de gens qui ont entendu effectivement des paroles prononcées par des gens qui n'avaient jamais appris une langue étrangère, qui ne la connaissaient pas, des paroles qui ont dû être produites par le miracle du Saint-Esprit. C'est en particulier le pasteur Jean-Marc Taubois, qui est un des neveux du pasteur André Taubois, qui a entendu à plusieurs reprises quelqu'un qui a prononcé des paroles en hébreu, qui n'avait jamais appris l'hébreu. Monsieur Jean-Marc Taubois, ayant passé quelques temps d'études à Jérusalem, a été habitué à entendre l'hébreu parler et à le reconnaître. Donc, dans un document expérience, qui est un organe du mouvement charismatique, qui a été publié, il donne l'attestation. Je lui avais d'ailleurs écrit à ce propos une fois. Je ne sais pas si je l'ai avec moi, c'est un document expérience qui parle de ce pasteur pentecôtiste qui n'avait jamais fait d'hébreu et qui, à plusieurs reprises, c'est tout à fait daté avec les témoins voulus, a parlé en hébreu miraculeusement. Il y a au moins quelques cas qui sont bien attestés. C'est ce qui vient confirmer pour moi le refus de ce que j'ai appelé le premier écueil tout à l'heure. Il ne faut pas déclarer inauthentique automatiquement tout ce qui passe pour parler en langue aujourd'hui. Je pense qu'il y en a une large part qui n'est que du gligligouglou, mais il y en a aussi une part authentique. Alors, quel pourcentage? 50-50, 60-40, 90-10, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mais je pense quand même pouvoir dire ça. Alors, difficulté, si quelqu'un croit avoir reçu le don de parler en langue, qu'il ait demandé ou non, dans une église comme la nôtre, est-ce le don authentique ou non? Je crois qu'il est très très difficile de le savoir de façon sûre, en quelque sorte extérieure. C'est de façon rarissime qu'on a l'occasion de vérification, quand c'est du vrai, qu'il y a quelqu'un qui sait l'hébreu juste quand quelqu'un parle en hébreu. Parce que même quand on a appris à lire l'hébreu, comme c'est mon cas, je crois que je ne serais pas capable de le reconnaître parler. Hein. Probablement pas. C'est une circonstance rarissime. Alors, dans les autres cas, on peut toujours se dire que c'est peut-être bien authentique. Mais en même temps, on n'en est pas non plus tout à fait sûr. C'est là ce qui crée un problème. Le fait que certains parlent en langue se ressemble beaucoup, soit des sortes d'imitations, doit créer une sorte de soupçon. On a remarqué que, par exemple, à partir d'une grande personnalité, d'un prédicateur évangéliste assez magnétique, disons, et sa manière de parler en langue, il y a des tas de gens qui ont exactement la même manière que lui, où on retrouve les mêmes séquences de sons. C'est ce que Samarine a découvert. Bon, ça rend tout de suite assez suspect, quand ça ressemble trop à une personnalité de leader. Bon, mais il est difficile de savoir, et je pense qu'il faut, en l'occurrence, accorder le bénéfice du doute. Que si quelqu'un croit avoir reçu le parler en langue, même si on ne peut pas prouver que c'est bien du chinois, du sénégal. Et je pense qu'il faut, en l'occurrence, accorder le bénéfice du doute. Que si quelqu'un croit avoir reçu le parler, n'est pas démontré. Oui. Il me semble qu'en gros, il faut essayer d'avoir cette attitude d'ouverture, de tolérance. Mais je pense que celui qui croit l'avoir reçu, alors doit quand même s'en inquiéter quelque peu. Est-ce vraiment authentique? Poser la question au Seigneur. Dans un livre qui est très méchant pour ceux qui parlent en langue, il faut le reconnaître, mais qui a des éléments de force, le livre de G.F. Randall, c'est-à-dire en fait de Fernand le Grand, « Je parle en langue plus que vous tous », il dit à la fin, il apostrophe les gens qui parlent en langue, en leur disant « Je vous mets au défi, allez voir des gens qui ont le don d'interprétation, séparément, avec une bande enregistrée de ce que vous avez dit en langue, et demandez au premier ce qui... de donner l'interprétation, demandez au deuxième, demandez à un troisième, et vous verrez. Vous verrez. Je vous mets au défi de le faire. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait, effectivement. Qui ont eu, ce qui me paraît quand même là, une certaine droiture, pour vérifier que c'est bien du Seigneur, parce que le Seigneur ne s'oppose pas du tout à la vérification. Vous vous rappelez ce qu'il a fait lors du miracle du premier livre des rois, au chapitre 18, le feu descendu, oui. Mettre de l'eau tout autour, dans la rigole, tout autour du bûcher où étaient les animaux du sacrifice, pour qu'on puisse vraiment vérifier que c'était le feu du ciel et pas simplement l'électricité de l'air qui allumait le bûcher. Hein. Oui, vérification. Va te montrer au prêtre, dit le lépreux. Vérification. C'est pas impie de vouloir le vérifier. Alors là, nous touchons le sujet de l'interprétation que soulève Monsieur Ribaud. Ce qui me semble très clair aussi, après le Nouveau Testament, c'est qu'il y a un don qui est en quelque sorte comme le jumeau, l'accompagnateur du don de parler en langue, c'est le don d'interpréter. Un don qui ne correspond pas à la connaissance de la langue. La connaissance de la langue, c'est un don naturel, pourrait-on dire. Ce n'est pas un des charismes de l'Esprit-Saint, dont naturel est acquis par le travail ordinaire. Monsieur Jean-Marc Taubois a reconnu de l'hébreu, parce qu'il avait appris l'hébreu, c'est pas ça le don d'interprétation. Le don d'interprétation, c'est un don surnaturel comme celui du vrai parler en langue, qui permet de dire en français, pour des Français, le sens exact de ce qui a été dit en chinois, sénégalais, etc. Par quelqu'un qui non plus ne sait pas le chinois ni le sénégalais. Alors je crois que ce don d'interprétation, c'est aussi un des dons que le Nouveau Testament met dans sa liste, et que l'apôtre Paul fixe cette règle tout à fait claire dans 1 Corinthiens 14, que dans les réunions de l'Église, il ne faut pas qu'il y ait de parler en langue sans qu'il y ait aussi une interprétation jumelle. Alors, à partir de là, il y a deux positions. Une position de gens qui disent, et en dehors de ça, pas de parler en langue du tout. Par exemple, c'est ce que John Stott conclut. Il y a une autre position, et c'est celle à laquelle, pour ma part, je me rallie. En dehors de ça, pas de parler en langue en public. Mais il peut y avoir un parler en langue sans interprétation en privé. Alors, c'est vrai que Paul ne le dit pas expressément, qu'il peut y avoir un parler en langue sans interprétation en privé. Mais moi, il me semble qu'on peut le conclure du fait qu'il dit que dans l'Église, il ne doit pas y avoir de parler en langue sans interprétation. Il me semble que ça sous-entend qu'en privé, c'est possible. C'est vrai qu'il ne le dit pas, mais c'est sous-entendu, me semble-t-il. Monsieur Gillet.
Non, pardon. Je préside. Excuse-moi, mais il y en a d'autres qui avaient demandé avant lui. Avant de donner la parole à qui que ce soit, je voudrais quand même qu'on fixe une limite à cet entretien, parce que nous avons une réunion d'église ordinaire ici. Et que c'est une question qui, de toute évidence, vous intéresse. Est-ce qu'on fixe une limite horaire ou est-ce que vous êtes prêt à rester jusqu'à 7 heures du soir?
Non, personne n'est prêt.
Alors, on dit 3 heures et demie? Pardon? Est-ce que vous souhaitez qu'on fixe une heure maintenant pour passer à l'assemblée d'église ordinaire?
Moi, il me semblerait peut-être que 3h15 pourrait être une limite assez sage, parce que quand même nous avons un ordre du jour chargé. Non. Mais si jamais il y avait encore beaucoup de questions, on pourrait programmer.
Et on pourrait peut-être alors, pour ceux qui désirent rester ensuite, reprendre, mais je ne veux pas obliger Henri Blocher à rester. Hein.
C'est surtout ma femme, enfin.
Oui. Donc, mais, je comprends.
Mais disons, on pourrait le prévoir pour une autre fois.
On pourrait reprendre une autre fois. Alors, on s'arrête donc dans un quart d'heure. Alors, la première question était de Farida, ensuite Robert Gillet, Madame Duhamel, Monsieur Gilbert.
Madame
Foucault, si on a le temps, 3h15, Madame Foucault.
Je vais essayer d'être court. Alors, voilà.
Faut être court, faut pas essayer.
Au sujet, lorsque l'on dit que un parlant langue peut être aussi une vraie langue. Bon. Mm-hmm. Est-ce qu'il ne s'est pas trouvé dans une situation où ce n'était pas biblique, où ce n'était pas dirigé par le Seigneur, et plutôt que c'était satanique? Je dis ça parce que j'ai reçu une lettre cette semaine d'un frère dont je peux dire qu'il est vraiment chrétien, donc là-dessus je ne mets pas de point d'interrogation, qui disait dans le coin où il se trouve actuellement, une femme a été vraiment possédée, moi je prends toujours ça avec des pincettes, mais lui, le connaissant, a dit, voilà, l'un des démons qui était dans cette femme a parlé en anglais, et un anglais sans accent. Et je connais le prêtre pour ça, son honnêteté. Et je dis, mais alors là, est-ce que ça va vraiment aussi? On peut dire que même une langue connue peut être pas dirigée du Seigneur. Alors, et d'un autre côté, la deuxième partie de ma question, c'est, bon, si on dit que ce n'est pas biblique, alors ça doit nous emmener un peu plus loin dans notre réflexion, c'est-à-dire dans le sens de la collaboration. C'est peut-être extrême ce que je veux dire, mais je crois que c'est ce qui amène souvent la confusion. Je ne recherche pas le don, pas vraiment, mais je ne sais pas si on peut être aussi catégorique, etc., etc. Souvent, on se met à la place du Seigneur, mais en même temps, on dit, bon, c'est pas lui, mais on accepte de travailler avec d'autres. Et je sais pour vous-même, à la vie, nous faisons aussi. Donc, c'est là où. Et ça amène peut-être certaines questions.
Bien. Bon, alors, je répondrai en premier lieu que je crois qu'en effet, on a enregistré certains cas de parler en langue satanique, qui étaient réellement des émissions de type surnaturel, en langues étrangères, mais qui étaient sataniques. La difficulté en pareille affaire, c'est d'avoir des témoignages sûrs. Parce que ça circule, on dit, il y a des gens, etc. Mais trouver quelqu'un comme témoin fiable, une telle chose est arrivée. Vous avez apparemment quelqu'un. Moi, j'ai une personne aussi. J'ai entendu le pasteur Gottfried Osei-Mensah, qui était le secrétaire général du comité international de Lausanne, raconter très précisément comment, dans un groupe biblique, il était auparavant responsable des GBU de langue anglaise en Afrique, comme dans un GBU, une jeune fille, et apparemment une chrétienne, parlant en langue, a émis dans une langue tribale, qui était connue de quelqu'un du groupe, d'horribles blasphèmes. J'avais un exemple très précis de quelqu'un qui pouvait certifier. Ça existe aussi. Je crois que ça doit nous rappeler simplement le danger associé à quelque chose d'incontrôlable, à une attitude d'ouverture qui peut être ouverture à l'Esprit de Dieu, mais aussi à n'importe quoi et à d'autres esprits. Mais en même temps, ça ne doit pas nous faire condamner ce qui est de l'Esprit de Dieu. Alors, quel est le critère? Je me rappelle avoir lu un article une fois, c'était un journal de la CMA, mais malheureusement je ne sais plus quel est l'auteur. Je ne sais pas si c'était Tozer, je ne pense plus. Je ne pense quand même pas. Mais d'un homme de Dieu expérimenté qui disait que systématiquement, s'il y avait quelqu'un qui parlait en langue, il se rappelait ce que l'on trouve dans la première épître de Jean, tout esprit qui confesse le Christ venu en chair, Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, celui qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, qui demandait au glossolan, à la personne qui parlait en langue, de confesser Jésus-Christ venu en chair. Et d'après cet article, pratiquement toujours, il se heurtait à un refus. la personne essayait de ne pas donner cette réponse, de ne pas. Ce qui sous-entendait une intervention d'autres esprits. Bon, je vous dis, j'ai lu cet article une fois, c'est la seule manière dont un critère a pu être appliqué. Mais enfin, ça ne nous permet pas de généraliser non plus, hein. Je vous signale simplement cela. Alors, quant à la question de la collaboration, je crois que lorsqu'il y a des phénomènes de type satanique, évidemment, toute collaboration devient très, très difficile à imaginer. Nous devons être là avec une grande prudence. Mais lorsqu'il s'agit d'erreurs de doctrine sur un point qui reste secondaire, lorsqu'il s'agit de phénomènes qui sont, par exemple, simplement psychiques, il me semble que nous devons apprendre à tolérer des choses qui ne nous plaisent pas beaucoup chez des frères, pour collaborer au moins dans certaines entreprises avec eux. Je crois pour ma part donc que beaucoup de charismatiques, en fait, ne font qu'exploiter un mécanisme de leur inconscient, un mécanisme infralinguistique qui existe en eux, qui s'imaginent que c'est le Saint-Esprit alors que ce n'est pas le cas. Je pense qu'ils ont tort, mais ça n'empêche pas de collaborer avec eux. Je ne crois pas que nous ayons à exiger une rectitude sur toute la ligne. Nous imaginons que nous tombons juste la plupart du temps, mais nous savons quand même que ça ne doit pas être le cas.
Sinon, nous ne pourrions même plus collaborer avec nous-mêmes.
Eh oui, n'est-ce pas? Alors, je crois qu'il nous faut apprendre là à discerner ce qui est secondaire de ce qui est trop important pour permettre la collaboration.
Robert Gillet.
Il y a beaucoup de critères pour discerner si un don parle de Dieu ou pas. Est-ce qu'il serait juste de dire, à partir du moment où un don est exprimé dans l'Église mais qui n'est pas interprété tout de suite, est-ce que c'est un don qui n'est pas venu de Dieu?
Je ne suis pas sûr. Je ne vois pas que Paul ait cette logique exactement, parce qu'il dit, donc si quelqu'un a le don de parler en langue, qu'il prie aussi afin qu'il interprète. Certains traduisent afin qu'on interprète, comme si c'était peut-être quelqu'un d'autre, mais le plus simple, c'est de garder le même sujet dans la phrase, afin qu'il interprète. Ça laisse supposer que le don du parler en langue peut être authentique, mais que la personne, pour l'exercer, doit avoir aussi l'autre don. Ou être sûr qu'il y a quelqu'un, au moins, à côté d'elle, qui a cet autre don. Il me semble que c'est ça le plus logique. Donc, qu'il peut y avoir un don de parler en langue authentique, mais qu'il ne convient pas d'exercer parce qu'il est soumis à la volonté du chrétien qui l'a, même l'esprit de prophétie. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Alors aussi, le don de glossolalie, il est authentique.
Mais on ne peut pas dire que, en fait, si ce don vient de Dieu, est-ce que Dieu peut contredire à sa parole? Est-ce qu'il permettait que quelqu'un parle en langue, lorsqu'il n'y a pas d'interprétation? Est-ce que Dieu ne peut pas empêcher cela dans l'Église, dans l'Église?
Oui. Je crois qu'il est dangereux là de trop assujettir Dieu à notre logique, n'est-ce pas? Il y a bien des choses que Dieu permet en toute authenticité et dont nous disons qu'il ne devrait pas permettre, n'est-ce pas? Alors, moi je n'oserais pas, Je me dis, si Dieu dans sa souveraineté permet aussi que quelqu'un qui aurait dû demander le don d'interprétation ou qui aurait dû avoir le courage de l'exercer ne le fait pas, fait carence, ce n'est pas quelque chose qui dément l'authenticité du don du premier.
Et on peut aussi imaginer le cas où quelqu'un a reçu le don d'interprétation mais ne le pratique pas et désobéit à Dieu à ce moment-là. C'est pas exclu, c'est pas certain, mais c'est pas exclu.
Oui, je l'incluais dans ce que j'évoquais, oui.
Bien, Monsieur Gilbert, non, Madame Duhamel.
Moi, je me suis toujours frappée, c'est lorsqu'on dit que les parcours de chrétiens charismatiques et pas nous. Est-ce que tout chrétien, par définition, n'est pas charismatique, d'une part? Et d'autre part, ne croyez-vous pas que toutes ces divisions sont dues au fait qu'on se passionne, justement, plus pour ce qui divise que pour ceux qui le rassemblent. Et il m'est fait, je suis convaincue, personnellement, c'est comme ça que je vois les choses, lorsque je rencontre en fait ces divinismes, parce que je le suis moi-même, je dis, ça y est, il va me poser la question fatidique. Est-ce que je suis baptisé du Saint-Esprit? Alors, hop, je retourne dans ma petite coquille, mais lorsque je rencontre des chrétiens, baptistes ou que sais-je, évangéliques libres, ça y est, je vais encore casser du sucre sur l'eau des banquetiers. Parce que la synthèse est faite dans la parole de Dieu. Et il suffit qu'il y ait de l'humilité, de part et d'autre, nous puissions nous réunir autour du Seigneur pour lui dire, parle au maître, parle encore. Et nous pouvons parler justement à la place de Dieu, au lieu de nous laisser guider par son esprit, parler en langue, en sénégalais peut-être. Pour que ce soit bien, pour le Seigneur, pour sa gloire. C'est justement, je trouve qu'il y a trop de division à ce sujet. Mais la division se trouve en nous déjà, parce qu'on ne comprend pas tout ce qu'on parle.
Oui. Alors, je peux répondre très brièvement parce que je suis tout à fait d'accord essentiellement avec vous. D'abord, je crois que si on emploie le mot de charismatique pour un certain groupe, on sait parce que c'est devenu une commodité de langage, mais que quant au sens que les termes devraient avoir, d'après leur étymologie, en effet, tous les chrétiens authentiques sont charismatiques. Et le tabernacle est une église charismatique, je l'espère bien. Enfin, ayant des charismes du Seigneur, le don d'aller porter des secours aux malades, d'aller donner un coup de main à quelqu'un qui ne réussit plus à faire ses courses, etc. Mais c'est un charisme d'après la liste de l'apôtre Paul. Donc c'est bien vrai que nous sommes tous charismatiques au sens que Paul pouvait donner à ce terme. Il emploie non pas l'adjectif, mais le nom. Et oui, donner de l'argent, etc. Vous voyez, distribuer les secours. Bon. Et deuxièmement, la tendance est toujours là pour nous d'accentuer les points de division. Ça ne doit pas nous conduire à ignorer les débats, mais doit nous porter à la tolérance fraternelle, à la mesure quant à l'importance des questions. Et je suis bien d'accord avec vous, cette question ne doit pas figurer parmi les toutes principales. C'est une question secondaire, c'est pourquoi j'ai répondu que nous pouvons collaborer avec des gens qui n'ont pas le même avis que nous sur ce point. Et jusqu'à présent, moi, j'ai vraiment pensé que c'était une bénédiction de la part du Seigneur, que dans notre Église, il puisse y avoir de véritables différences sur ce sujet. Je crois savoir qu'il y en a plusieurs qui exercent en privé le don de parler en langue. Alors, j'espère que c'est le parler authentique selon le Nouveau Testament, je ne peux pas le vérifier, mais disons, je l'espère comme je pense que eux l'espèrent aussi, mais je pense que tout s'est fait dans la paix et dans l'harmonie entre nous, et c'est sachant cette situation que j'ai dit qu'à mon avis, par rapport à la situation historique dans laquelle nous sommes, à la préparation des esprits, etc., il valait mieux que cela ne s'exprime pas dans nos réunions de culte du dimanche matin, mais vous voyez, je trouve que c'est une très bonne chose que dans notre Église, il y a cette diversité.
Monsieur Gilbert.
Alors moi, il y a déjà un petit moment que j'ai réalisé son côté, c'est le dimanche. À un moment, on arrive au pasteur. Parce que le pasteur-là, il ne préconise pas non plus le parler en langue beaucoup. Et il dit naturellement qu'il n'y a pas que ce besoin-là. Alors quand je discute avec les frères et sœurs, j'en ai dit, écoutez, quand vous parlez en langue, s'il n'y a pas d'interprétation, moi je dis quoi, même votre prière.
Oui, bien sûr.
Automatiquement, c'est biblique, ça.
Oui.
Donc, je ne comprends pas la prière. Alors, quand je vais à l'église catholique, ou par exemple, attends, je ne sais pas. Non, il n'y a pas ça. C'est censé, quoi. Alors, finalement, il y a d'autres chrétiens qui disent, oui, moi, il y a les anciens chrétiens qui m'ont dit, mais écoute, moi, je parle en langue, mais tout seul. Bon, pourquoi? Parce que il arrive un moment, je ne sais pas quoi dire au Seigneur. Alors, c'est le Seigneur, je parle au Seigneur dans un langage, je ne comprends pas. Il n'interprète pas. C'est tout seul à ce moment-là.
Oui, c'est ça, c'est en privé.
C'est quelque chose, c'est égoïste, ce coup-là.
Bon. Tu veux rajouter quelque chose?
Je pense que l'apôtre Paul, en un sens, dites un petit peu à ceux qui parlent en langue, attention de ne pas tomber dans le piège de l'égoïsme, n'est-ce pas? Parce que c'est un peu au chapitre 14 de la première aux Corinthiens, ce qu'il leur dit. Bon, celui qui parle en langue comme ça, tout seul, il s'édifie lui-même, seulement ça profite pas aux autres. Alors, essayez plutôt d'avoir les autres dons qui profitent aux autres. Donc, en un sens, il leur dit ça. Mais il faudrait quand même pas en conclure que celui qui le pratique pour lui-même le pratique nécessairement à des fins égoïstes, pour sa propre jouissance. Si ça l'édifie, ça le rend apte à mieux servir les autres aussi. Et ça fait du bien, au bout du compte, à l'ensemble du corps. Vous voyez.
Madame Foucault.
Oui, lorsque Paul dit aux apôtres, je parle en langue plus que vous autres, il teste les langues ou des dialectes, des contrées qu'il avait visitées.
Non, je pense que dans ce contexte, c'est tout à fait net. Il s'agit des langues du miracle de la glossolalie. C'est pas les langues qu'il avait apprises au cours de ses voyages, s'il en avait vraiment apprises. Ce sont les langues miraculeuses données par le Saint-Esprit. Je crois que Paul nous dit clairement dans ce passage que lui, 9, donc, après avoir dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous », qu'il ajoute « Mais dans l'Église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres plutôt que 10 000 paroles en langue. » Donc je crois bien qu'il s'agit de ces langues-là.
Oui, je suis d'accord avec toi. Ce qu'on peut penser, c'est que Paul, en tant qu'apôtre et fondateur d'Église, avait reçu du Seigneur un très large éventail de dons, parce que ces dons l'Église n'existait pas. Il avait donc lui-même, il était en quelque sorte une sorte d'Église en microcosme en arrivant, et que dans cet éventail de dons qu'avait l'apôtre Paul, il y avait le don de parler en langue, mais il ne le considère pas, ça paraît très clair, comme un des dons les meilleurs, et un de ceux qu'il recherche, et un de ceux qu'il cherche à exercer.
Là, ce que je trouve, c'est pas juste, c'est que vous dites, non, mais en dehors de l'Église, peut-être, mais là, c'était quand même dans l'Église. Alors, est-ce que, pour nous arranger, donc, parce qu'on est un peu occident, faut pas dépasser l'homme, faut pas ceci, faut pas cela, finalement, on met ça à notre petite sauce de France ou d'ailleurs, hein, et on ne veut pas que ce soit dans l'Église, parce que ça doit être dans l'Église, vraiment. Il semble que Paul le dit quand même dans le cadre de l'Église, et ou non.
Je comprends pas vraiment. Il me semble que ce que Paul dit là, c'est que justement, dans l'Église, il ne cherche pas à le faire.
Il ne faut pas chercher à le faire dans l'Église.
Non. Et les Corinthiens le faisaient dans l'Église.
Ah oui, les Corinthiens le faisaient dans l'Église. Et Paul dit ne pas l'interdire si c'est interprété. Et encore, dans un nombre réduit, hein, il dit aussi que... il dit au verset 27, si l'on parle en langue... que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Donc Paul dit ne pas l'interdire, si c'est dans l'Église, ne pas l'interdire, mais pas plus de deux ou trois, et au moins qu'il y ait toujours une interprétation. Il pose deux conditions. Voilà ce qu'il dit. Mais ça, c'est bien dans l'Église qu'il dit ça.
Nous avons dit 3h15, je suis un affreux occidental. Nous voyons que l'apôtre Paul lui-même met des limites, 2 et 3. Non, je crois qu'il y a au moins 4 ou 5 mains qui se sont levées. Alors, si on continue, on finit notre réunion à 7h, mes amis. Non, parce qu'on a encore pas mal de choses à dire. Je préférerais qu'on fasse une autre rencontre un jour, si vous le désirez, sur cette question en prenant le temps. Sinon, il va se produire ce qui s'est passé dans l'Institut biblique qu'a donné M. Blocher, c'est-à-dire que sur la fin bousculée, il n'a pas eu le temps de bien expliciter ce qu'il voulait dire et il a pu être mal compris. Nous allons retomber dans ce travers-là. Il faudra refaire malgré tout une autre réunion pour expliciter ce qui n'a pas été compris. Autant carrément faire une autre réunion pour répondre à vos questions.
Y a-t-il quelqu'un ici dans notre église qui se soit exercé, si je puis dire, qu'il est le bon bilan et qui le dit, qui se montre, qui le dit.
Mais on ne peut pas l'y obliger non plus. Je peux vous assurer qu'il y a quelqu'un qui a maintenant quitté l'église parce qu'il est ailleurs, qu'il a quitté la région parisienne, qui avait ce don, mais il n'est pas parmi nous aujourd'hui. Voilà, excusez.